Optique Caution de Atlantique Assurance, la garantie financière pour les marchés publics et privés, vous propose appel sur l'actualité.
Atlantique Assurance, en toute confiance.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, merci de votre confiance. Nous sommes le 25 mai et il y a 60 ans, jour pour jour, l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, voyait le jour à Addis Abeba, en Éthiopie, dans le but d'encourager l'unité et la solidarité de l'Afrique, mais aussi d'éliminer du continent toutes les formes du colonialisme. Avec le temps, l'OUA a fini par s'essouffler, elle a fini par être considérée surtout comme un club de chefs d'État et non comme une institution qui encourageait le panafricanisme. Du coup, en 2002, l'organisation a changé de nom en devenant l'Union africaine, l'UA, conçue sur le modèle de l'Union européenne. L'organisation aujourd'hui est-elle crédible dans ses prises de décision? Est-elle à la hauteur de vos attentes? On en parle dans 30 minutes, vous nous rejoignez et vous êtes nombreux. J'ai sous les yeux des réactions du Togo, du Congo, du Mali, du Cameroun, du Sénégal, de Côte d'Ivoire ou encore de Guinée. Le sujet visiblement ne vous laisse pas indifférent. Vous nous rejoignez au standard 33 9 693 693 70 et comme tous les jours sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer avec Dicia à Kinshasa. Bonjour Dicia.
Oui, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio Nomber. Ouais. Je passe mes salutations aussi à Madame Nathalie Amar.
Ah, Nathalie Amar, qui doit être encore dans les couloirs de la radio, puisqu'elle vient de rendre l'antenne. Nathalie, qu'on retrouvera évidemment dès lundi dans la matinale de RFI. Dicia, vous avez des questions sur la RDC, votre pays, et sur l'opposant Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle.
Oui, justement, le gouverneur du Congo central, l'autre fois, a interdit à Moïse Katumbi de se rendre dans sa province pour ses activités politiques.
Oui.
Pourquoi le gouverneur interdit le déplacement des candidats à la présidentielle?
Ouais, c'est vrai que mardi, Moïse Katumbi avait prévu de se rendre dans le Congo central par la route, mais il a été stoppé par la police, comme vous le disiez, Dicia, sur instruction du gouverneur de la province. Bonjour, Patient Ligodi.
Bonjour Juan, bonjour Dicia.
Merci d'être avec nous, vous êtes l'un des correspondants de RFI à Kinshasa. Expliquez-nous, patient, pourquoi Moïse Katumbi s'est vu empêché de se rendre dans le Congo central.
Plusieurs explications ont été données à l'entourage du gouverneur du Congo central. Explique qu'il s'agit d'une décision du Conseil provincial de sécurité. Les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies pour la tenue des manifestations politiques de grande ampleur. Le Congo central, dit-il, fait face à des incursions d'assaillants armés, membres de la milice Mobondo, qui opèrent dans les provinces voisines du Congo, du Kwilu et du Bayindobe. Hier mercredi, le gouverneur du Congo central a été reçu par le vice-premier ministre chargé de l'intérieur. Il a été entendu sur cette question. Selon sa version, il s'agissait d'abord d'une question logistique. Il avait besoin de réunir suffisamment de moyens pour mobiliser les policiers censés encadrer ces manifestations politiques. Ainsi, il avait, dit-il, sollicité que les dites manifestations se déroulent deux jours plus tard. Mmh. Une version que les opposants rejettent et ils dénoncent, je cite, une dérive dictatorial.
Oui, parmi les réactions de l'opposition, signalons celle de l'ancien Premier ministre, Augustin Matata Ponyo, qui a dénoncé, je cite, une obstruction anticonstitutionnelle et inacceptable. Donc les autorités invoquent des raisons sécuritaires. Dicia, vous avez une autre question?
Oui, Juan, cette situation se déroule quelques jours après la répression brutale de la marche de l'opposition par la police. Alors la question, comment explique ce durcissement des autorités congolaises?
Durcissement du régime. Je rappelle tout de même que la répression de la marche de l'opposition samedi à Kinshasa a été condamnée notamment par l'ONU, mais aussi par la Conférence épiscopale du Congo, par l'Union européenne, les États-Unis. Patient Ligodi, pourquoi le climat s'est-il récemment tendu?
Le gouvernement accuse l'opposition de mener des actions dans le but d'empêcher la tenue des élections. Hier, Peter Kazadi, le vice-premier ministre et ministre congolais de l'Intérieur, a eu des mots durs envers l'opposition. Il a accusé les opposants de recruter des mineurs, de les droguer et de les envoyer s'attaquer aux policiers et aux biens appartenant aux membres de la mouvance présidentielle. Toujours selon Peter Kazadi, certains opposants recrutent des membres de la milice Mobondo, je l'ai dit, qui est active dans les provinces du Maindombe, Kwilu et Kwango, et une partie de Kinshasa pour semer les chaos dans la capitale.
Une dernière question, Dicia.
L'opposition compte-t-elle riposter ?
Alors, l'opposition compte-t-elle riposter ? Que compte faire aujourd'hui, désormais, les opposants Patient Ligaudy ?
L'opposition ne compte pas baisser les bras. Hein. Elle a annoncé une série de manifestations, dont une qui est justement prévue aujourd'hui devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante. D'ailleurs, je me trouve actuellement à quelques mètres de l'endroit. Un impressionnant dispositif sécuritaire est déployé. Il faut dire qu'un premier front anti-pouvoir actuel a été constitué. Il est composé des 4 candidats déclarés à la présidentielle, dont Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sangay, Augustin Matata Ponyo. C'est ce quatuor qui a appelé au sit-in d'aujourd'hui devant le siège de la CENI. Il y a également le PPRD de l'ancien président Joseph Kabila qui ne jure que par des réformes consensuelles. Il a d'ailleurs boycotté les opérations d'enrôlement des électeurs.
Et vous parliez de cette manifestation prévue aujourd'hui même devant la commission électorale. Manifestation, rappelons-le, interdite par le vice-gouverneur de Kinshasa. On suivra évidemment l'évolution de la situation sur place avec vous, Patient Ligaudy. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je remercie Dicia qui nous appelait de Kinshasa et je suis ravi d'accueillir dans ce studio le spécialiste des questions de défense à RFI. Bienvenue Franck Alexandre.
Bonjour Juan.
On a des questions sur le budget de l'armée française. On en parlait en début de semaine sur l'antenne de RFI. Abdoulaye, soyez le bienvenu.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les fidèles de RFI. Et avant de poser mes questions, permettez-moi de rendre un hommage à mon ami Adnan Adam, professeur d'histoire et à mon ami Seyit, bon. Qui me suit actuellement.
Si tous les auditeurs se mettent à saluer la moitié de leur connaissance, l'émission ne suffira pas. Abdoulaye, en tout cas, vous êtes les bienvenus, on va vous entendre. Quelles sont vos questions donc, sur le budget de l'armée française ? Vous êtes à Nanterre, hein, je le précise, en région parisienne.
La loi de programmation militaire prévoyant un budget de 413 milliards d'euros et examiné à l'Assemblée nationale française depuis lundi. Comment expliquer cette augmentation spectaculaire du budget militaire ? À quel domaine sera consacré ce budget ?
Alors Franck Alexandre, c'est vrai, Abdoulaye a raison de parler d'une augmentation spectaculaire du budget militaire. 413 milliards d'euros sur 7 ans, il faut quand même le préciser, mais c'est une hausse de 30%.
Ah, 40% même. 40. C'est donc un budget 40% de plus que la précédente loi de programmation militaire, budget XXL. Alors pourquoi, hein, pourquoi cet effort ? Bien, je vais citer l'amiral Vendier, patron de la marine, qui nous dit « Nous avons dépensé jusqu'au dernier euro des bénéfices de la paix ». Il faut se souvenir, Juan, qu'après la fin de la guerre froide, la France, comme tous nos voisins d'ailleurs, a massivement cessé d'investir dans sa défense, laissant les armées, bien sûr, la trame. Or voilà, depuis le 24 février 2020, date de l'invasion russe en Ukraine, nous avons changé d'air avec le retour de la guerre en Europe, ce qui était inenvisageable ces dernières années. Désormais, le recours à la force est redevenu un mode de règlement des conflits et face à la montée des tensions internationales, il faut donc urgemment muscler notre défense.
Oui, cette guerre en Ukraine a mis en lumière certaines faiblesses de l'armée française. À quoi va servir concrètement ce budget de 413 milliards d'euros ?
Tout d'abord, la LPM définit un format d'armée, hein, un modèle d'armée complet. Les forces françaises doivent savoir tout faire et dans tous les champs. Premier pilier, la dissuasion nucléaire, l'assurance vie du pays, une force de frappe qui permet à la France de rester dans le cercle restreint des grandes puissances militaires. Et ce, d'autant plus, Juan, il faut le préciser, que nous la maîtrisons seule, sans soutien extérieur. Cette dissuasion, en raison de sa modernisation, futur sous-marin, lanceur d'engins, futur vecteur aérien, c'est le missile ANS-4G, consomme à elle seule 13% des crédits. Alors, la cible des militaires reste inchangée, hein, 275 000 soldats. Les équipements, en revanche, avions blindés, représentent 268 milliards d'euros. Le budget consacré à leur entretien grimpe de 40%, tout comme celui de l'entraînement des forces. La LPM entend aussi remédier à des faiblesses mises en lumière par la guerre d'Ukraine, notamment les stocks de munitions, chiffrés à 16 milliards, les dispositifs de défense sol-air, 5 milliards, mais surtout, l'accent est mis sur les nouveaux champs de conflictualité, comme l'espace ou le cyber. Deux fois plus d'argent sera consacré aux drones, 5 milliards aux renseignements. Il faut bien comprendre en fait que ces nouveaux champs de conflictualité, surtout le renseignement, vont inspirer une large partie des crédits. La raison est simple, hein, pour rester dans la course, il faut franchir des marges technologiques. Plus vous multipliez les capteurs dans l'espace, la troisième dimension, les grands fonds marins, plus vous avez besoin de super calculateurs, d'intelligence artificielle pour traiter les données, ça coûte très cher. Mais pour rester une grande nation, il faut disposer d'un renseignement souverain. Les militaires espéraient, hein, grâce à cette super LPM, avoir plus de chars, de canons, de bateaux à l'horizon 2030. Ils restent en partie sur leur faim et sur les bancs de l'Assemblée, ces choix ne font pas l'unanimité. Un certain nombre de députés préféraient au contraire densifier les armées avec plus de matériel. Vous l'avez compris, Roanne, les débats dans l'hémicycle s'annoncent.
Et on suivra ça évidemment avec vous, Franck Alexandre. Abdoulaye, on a répondu à vos questions ?
Oui, c'est parfait.
C'est parfait, tant mieux. Et continuez à nous écouter à Nanterre, en région parisienne. Franck Alexandre, à bientôt, spécialiste des questions de défense à RFI. Les 10h21, ce sont vos questions pour mieux comprendre tous les sujets que vous entendez sur l'antenne de RFI. Rachad, bonjour.
Bonjour, Anne, et bonjour à tout le personnel de la RFI.
Merci, vous êtes à Lomé, au Togo, et vous avez des questions après avoir entendu l'une des émissions de priorité santé réalisées à Cuba.
Oui, évidemment, Juan.
On vous écoute.
Lors de l'émission de la priorité santé des RFI sur 22-23 à Cuba, j'ai entendu le témoignage d'une étudiante togolaise en médecine à Cuba qu'elle ne rentrera pas au pays après ses études, car le Togo ne reconnaît pas le diplôme cubain.
Oui. Ah, j'ai entendu un claque au loin, et on me dit au casque, nous l'avons perdu. Nous avons perdu Rachad. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont les aléas du direct. En tout cas, Rachad a bien suivi l'émission de Caroline Paré. Et effectivement, cette jeune étudiante disait, bah, je suis là en ce moment à Cuba, je me forme pour devenir médecin, mais je ne rentrerai pas dans mon pays, car mon diplôme ne sera pas reconnu. Alors Rachad, lui, s'étonnait, alors que la médecine cubaine est quand même internationalement reconnue. Qui de mieux placé pour répondre à Rachad que Caroline Paré? Bonjour Caroline.
Bonjour Juan.
Vous présentez Priorité Santé tous les jours, donc à 9h10 temps universel. Dans cette émission de lundi, vous étiez donc à La Havane, aux côtés de plusieurs étudiants originaires d'Afrique francophone qui se destinent au métier de médecin. Parlez-nous de Solim, donc cette étudiante togolaise.
Oui, elle est au début de ses études, de Solim, mais déjà, elle sait qu'elle ne retournera pas à Lomé. Alors déjà, elle n'a pas voulu faire ses études de médecine à Lomé. Elle a été attirée par l'étranger. Elle est allée à Cuba et elle est inscrite donc à l'école latino-américaine de médecine de Cuba. Quand elle dit que le Togo ne reconnaît pas le diplôme cubain, c'est pas tout à fait vrai. Effectivement, on ne peut pas exercer directement quand on rentre de La Havane avec le diplôme cubain en poche, parce que c'est un petit peu partout pareil. Hein. Ça passe par une étape. Il faut, par exemple, à Lomé, déposer une demande d'homologation à une commission nationale. Ça dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ensuite, il faut que, pour recevoir des patients, il faut que l'Ordre des médecins valide l'inscription. En fait, tous les pays, comme ça, posent leurs conditions, des conditions bien précises pour les équivalences. Et donc, ce n'est pas du tout une question de réputation, ce n'est pas la qualité des études qui détermine, mais plutôt des accords conclus entre les pays. Solim, elle dit qu'elle a envie d'aller aux États-Unis, mais là, ce sera pareil. Il faudra aussi passer par un accord. Là, ce n'est pas un organisme central qui décide. Ça va être peut-être un hôpital, ça va être peut-être une école, soit alors des médecins. Là encore, il y aura des démarches.
Ouais. Et en plus, il y a une différence entre le droit d'exercer et la reconnaissance du diplôme.
Oui, il y a des étapes différentes, Juan. Par exemple, en France, certains pays de l'Union européenne, pour eux, la reconnaissance, c'est automatique. Mais attention, il faut être européen. Sinon, il y a encore une vérification d'équivalence. Donc, tout ça se complique. Cette sélection, c'est aussi considéré par certains comme une forme de discrimination. Pourquoi ? Parce que, par exemple, des médecins, par exemple, qui viennent d'Afrique, peuvent faire fonction de médecin. On les voit hein, dans les hôpitaux, c'est le jargon officiel. Ça veut dire qu'ils ont la compétence, ils ont l'expérience, bref, ils ont tout d'un médecin, sauf qu'ils n'en ont pas ni les droits, ni le salaire. Il y a des discriminations au niveau du salaire. Bref, quand on veut exercer dans un autre pays, il faut se renseigner auprès des autorités compétentes, et puis il faut surtout se préparer à remplir beaucoup, beaucoup de papiers.
Effectivement, c'est un peu le parcours du combattant. Rachad, on vous a retrouvé. Vous avez une autre question à poser à Caroline Paré, toujours sur cette thématique.
Oui, Juan. Quel est alors l'avenir de ces jeunes étudiants africains qui étudient à Cuba ?
Ah, c'est une bonne question. Quelle perspective d'avenir ?
Alors, la première chose à dire, c'est qu'ils vont pour l'essentiel d'entre eux, hein, ils vont partir de Cuba parce que c'est un petit contrat que passe La Havane avec ses étudiants qui viennent du monde entier. Ils viennent le temps des études, mais le temps de séjour est conditionné par ces études. Ils ne vont pas rester sur place. Et puis après, ils vont faire ces 6 années de formation. Il y aura l'adaptation, il y aura peut-être une spécialisation, après peut-être quelques mois dans un hôpital cubain. Mmh. Et ensuite, bah, ils vont a priori partir exercer ailleurs.
Ils vont retourner au pays ?
Bah, dans l'émission, on a entendu que certains avaient envie plutôt d'aller en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis. C'est peut-être qu'il y a plus de perspectives. Puis d'autres, ils voudraient retrouver la famille parce qu'ils ont dit ce qui manque le plus quand on a fait un aussi long voyage, c'est la famille et en particulier maman.
Voilà, et c'est une émission évidemment à réécouter sur l'application Pure Radio par exemple. Pourquoi pas Pure Radio, nouvelle formule. N'hésitez pas, je vous invite vivement à la télécharger si ce n'est toujours pas fait. Merci à vous Caroline Paré, on vous retrouve tout à l'heure à 9h10 temps universel. Bonne journée Rachad à Lomé. Et nous accueillons Lama Banque maintenant. Bonjour Lama Banque.
Bonjour Sohan, bonjour à vos millions d'auditeurs et un bonjour particulier aux Guinéens vivant en Turquie.
Ah, aux Guinéens vivant en Turquie. Bon ben s'ils nous écoutent, on les salue également, évidemment. Lama Banque, des questions sur la Turquie justement, le second tour de la présidentielle, scrutin prévu ce dimanche.
Évidemment, le candidat Sinan Oğan a annoncé soutenir Erdogan pour le second tour. Pourquoi Oğan a-t-il finalement décidé de le soutenir ?
Oui, il est arrivé troisième hein, au premier tour et autant vous dire que le président sortant comme son principal rival ont essayé de le courtiser. Guillaume Perrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la Turquie, journaliste au point. Je citerai votre dernier ouvrage justement sur la Turquie. Les loups aiment la brume aux éditions Grasset. C'est une enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe. Expliquez-nous pourquoi le troisième homme de cette élection a préféré se rallier au président sortant.
Oh, c'est assez naturel. Chacun essaye de monnayer comme il le peut ses voix. Donc, il vaut mieux miser sur celui qui va remporter l'élection que sur celui qui va la perdre. Je crois que c'est un principe de réalité. Et puis après, il y a un mouvement naturel hein, qui fait que ce candidat Sinan Oğan, qui est un candidat ultranationaliste d'extrême droite, ancien membre du parti nationaliste MHP, qui est le parti des loups gris, qui est associé aujourd'hui au pouvoir à Recep Tayyip Erdogan. Donc naturellement, ce candidat nationaliste était plutôt porté vers une alliance avec le président sortant, plutôt qu'avec l'opposition, oui. Hein, qui a une position plus conciliante vis-à-vis des Kurdes, hein, notamment.
Et en échange, qu'a-t-il obtenu de Recep Tayyip Erdogan ?
Écoutez, pas grand-chose. Hein.
Ah bon
en tout cas, c'est ce que dit Erdogan. Hein. Non, parce que Erdogan n'a pas vraiment besoin de négocier avec les petits candidats. Il est quasiment assuré de la victoire. Donc, il y a pas grand-chose à négocier, si ce n'est, un strapontin de second rang.
Oui, il lui a manqué au président Erdogan moins de 300 000 voix hein, pour être réélu dès le premier tour. Vous restez avec nous, Guillaume Perrier. Lama Banque a une dernière question à vous poser.
Est-on certain que les militants de Oğan vont tous voter pour Erdogan ?
Ah, les électeurs de Sinan Oğan vont-ils voter Recep Tayyip Erdogan ?
Non, sans doute pas tous, parce que Sinan Oğan était aussi allié à un autre candidat nationaliste, hein, avec des positions très anti-migrants contre les réfugiés. Et ce candidat, qui s'appelle le ÖSDA, du Zafer Parti,
oui.
Lui va soutenir Kemal Kılıçdaroğlu. Donc, il est fort probable que les électeurs qui ont voté pour Sinan Oğan au premier tour vont un petit peu se partager entre les deux candidats.
Ouais, Sinan...
Mais ceci dit, voilà, pour conclure, je pense que le score d'Erdogan sera beaucoup plus haut qu'au premier tour, et notamment parce que la participation sera moins forte.
Moins forte. Effectivement, il y avait eu une participation record il y a deux semaines. Le suspense est donc faible. On suivra ça évidemment avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux. Merci infiniment Guillaume Perrier d'avoir pris quelques instants pour nous éclairer sur ce second tour de la présidentielle en Turquie. Lama Banque, on a répondu à vos questions. Tout va bien ?
Grand merci à vous et bonne chance aux candidats.
Bonne journée à vous en tout cas à Conakry, en Guinée, où il sera bientôt 8h30, comme un peu partout en Afrique de l'Ouest. Vous restez à l'écoute de RFI. On va retrouver dans un instant l'ensemble du Service Afrique pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et tout de suite après, ce sont vos réactions, vos commentaires et surtout votre bilan de l'organisation de l'unité africaine qui fête aujourd'hui même ses 60 ans. Alors certes, entre-temps, l'organisation a été rebaptisée en Union africaine. Principes, valeurs, on en parle évidemment tous ensemble et je tiens à vous dire que le sujet ne vous laisse pas indifférent vu le nombre d'appels.